Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9, www.graphite.net, on vous l'avait annoncé. Normalement, réunion ou plutôt entretien de rentrée, mais finalement on est début décembre presque. On reçoit donc le président de l'UTC, Alain Storck. Bonjour, bienvenue sur notre antenne.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Bienvenue chez vous un peu, on pourrait dire.
Ah, absolument, oui.
On va faire un très rapide votre curriculum vitae. Vous êtes né en 49, vous avez donc 66
1949.
Ans. 1949. Oui, évidemment. 1949, vous avez donc 66 ans. Vous êtes donc à l'UTC depuis 2012. Vous avez été ingénieur...
2011.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Je suis arrivé le 1er septembre 2011. Mais j'ai été nommé le 1er février 2012.
Vous avez été diplômé ingénieur de l'ENSIC de Nancy en 72. C'était un diplôme d'ingénieur de sur quelle filière?
Génie chimique. École nationale supérieure des industries chimiques.
Justement, vous avez enseigné ensuite la chimie ?
La chimie, les procédés, le génie des séparations. J'étais un spécialiste des séparations, procédés de séparation.
Ça vous manque aujourd'hui, l'enseignement et,
J'avoue que oui, j'avoue que ça me manque. J'ai essayé pendant longtemps, quand j'étais encore à l'INSA de Lyon, à la direction de l'INSA de Lyon, d'enseigner, mais c'était rapidement devenu impossible. Impossible surtout pour les étudiants, parce que quand vous êtes obligé de changer les dates toutes les semaines. Mais c'est quelque chose qui me manque. J'ai quand même dans mon âme et dans mon corps le métier de professeur.
Bah justement, à la fin de l'émission, je vous poserai la question, qu'est-ce que vous ferez après l'UTC ? Peut-être la réponse sera celle-là.
On verra à la fin de l'émission.
Depuis quelques mois, le nom Sorbonne Université est un peu sur toutes les lèvres. Il y a un collectif qui s'appelle We Love UT qui s'est même créé pour un peu dénoncer un contexte d'éloignement entre les UT, entre l'UT de Belfort-Montbéliard, Compiègne et Troyes. Pourquoi ce rapprochement avec Sorbonne Université du coup ?
Alors Sorbonne Université, c'est un rapprochement qui a été opéré il y a déjà, ça ne date pas d'hier matin, il y a plusieurs années. Justement, quand je suis arrivé à l'UTC le 1er septembre 2011, nous étions membres associés et non pas membres fondateurs de quelque chose qui s'appelait pas à l'école une commune mais qui s'appelait un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Nous étions membres associés et j'ai pensé, et le conseil d'administration nous a suivis sur ce point, qu'il était intéressant pour un certain nombre de raisons d'aller plus loin dans ce partenariat et d'en devenir membre fondateur non initial, hein, puisque les membres fondateurs à l'origine ont été Paris 2, Paris 4 et Paris 6. Alors pourquoi cette volonté de notre part qui a été suivie par le CA, c'est parce que dans Sorbonne Université, et c'est la logique de partenariat dans Sorbonne, nous avons des partenaires qui ont des complémentarités thématiques intéressantes au niveau à l'époque du droit avec Paris 2, au niveau des sciences humaines et sociales avec Paris 4, au niveau des sciences, de l'ingénierie et de la médecine avec Paris 6, avec l'INSEAD également au niveau business, avec le Muséum d'Histoire Naturelle et certains organismes de recherche. Je vous cite ces établissements parce que vous voyez bien les complémentarités thématiques dans cette palette de partenaires. Et puis d'autre part quand même l'excellence. L'université Pierre et Marie Curie de Paris 6 a quand même une réputation dans le fameux classement de Shanghai, c'est quand même la première université française. Donc ce qui nous intéressait dans cette logique partenariale, c'était à la fois cette excellence qui s'exprime et puis ces complémentarités thématiques intéressantes pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller plus loin avec succès. Le conseil d'administration nous a suivis presque sous condition. Sous condition que nous ne nous engagions pas dans un processus de fusion, hein, puisque je vois vos prochaines questions, que l'on ne soit pas engagé dans un processus de fusion. Donc si j'ai obtenu à l'époque, en 2012, je crois, l'adhésion du conseil d'administration, c'était parce que nous avions des garanties que les trois universités Paris 2, Paris 4, Paris 6 étaient effectivement engagées dans ce qui s'appelait un processus transformant conduisant à une nouvelle université. Avec deux exceptions dans le dispositif, l'INSEAD au sud et puis l'UTC au nord. Et c'est ceci, alors à la fois cet intérêt plurithématique et puis ces conditions qui ont emporté l'adhésion du conseil d'administration. Alors, trois ans après, on peut faire un bilan qui est quand même, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire un bilan qui est quand même tout à fait positif. Bon, depuis, je vous rappelle quand même que Sorbonne Université a obtenu un IDEX dans le cadre des investissements d'avenir, hein, l'IDEX Sorbonne Université. Cet IDEX a été doté de 900 millions d'euros de capital, et vous savez bien que dans le principe des investissements d'avenir, nous pouvons utiliser annuellement le rapport de placement de ce capital qui se situe de l'ordre de 30 millions d'euros. Donc on dispose, par rapport au projet d'IDEX, qui est un projet ambitieux, qui a été retenu par un jury international, on dispose, les partenaires de Sorbonne disposent de 30 millions d'euros pour réaliser leur projet. Et effectivement, si l'on fait le bilan 4 ans après, on peut dire que le retour est tout à fait positif. C'était une interrogation de départ, d'ailleurs, que nous avions. Est-ce que dans cet ensemble qui représente 56 000 étudiants, et nous, 4 000 étudiants, donc vous voyez, un poids quantitatif inférieur à 10%, est-ce qu'on allait à trouver notre place et nos justes retours dans ces appels à projets? La réponse est oui, très clairement. C'est la logique de projet, c'est la qualité des dossiers qu'on a déposés en termes de vie étudiante, en termes de formation, en termes de recherche, en termes d'international. C'est la qualité des projets et les associations qu'on a eues pour mener ces projets, notamment avec Paris 6, qui a fait des résultats intéressants. Donc voilà, voilà le bilan un peu rapide et l'histoire donc qui aujourd'hui fait que nous sommes dans cette commu, hein, je rappelle, communauté d'université et d'établissement, qui a fait succession aux PRES, pôles de recherche et d'enseignement supérieur, avec ce fameux IDEX, qui est un très très beau projet avec une grande ambition.
Du coup, là, en fait, c'est un problème financier, en fait. C'est vraiment pour avoir plus de moyens et d'être reconnu internationalement, un petit peu.
Non, c'est pas... Le moteur n'est pas qu'un moteur financier. Alors, aujourd'hui, dans un contexte budgétaire serré, tendu, que connaissent les universités, on peut pas négliger, regarder un peu de haut la dimension financière. Mais le moteur, et je rappelle qu'au début, lorsque nous avons décidé d'adhérer, en 2011-2012, l'IDEX n'avait pas encore été obtenu. Hein. Donc c'était pas, à l'époque-là, j'avais engagé le conseil à nous suivre dans cette démarche, et il n'y avait pas la motivation financière, puisque l'IDEX n'existait pas encore. Alors aujourd'hui, un des moteurs, c'est quand même effectivement d'avoir un beau projet, ambitieux, de dimension internationale, qui a été retenu par un jury international, hein, je le rappelle, et qui par ailleurs dispose, pour la mise en œuvre de ce beau projet, dispose de financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 30 millions par an. Donc le moteur, si vous voulez, si je résume un peu globalement les raisons de notre adhésion et le moteur aujourd'hui, le moteur, c'est cette logique de complémentarité thématique, parce que la pluridisciplinarité est quelque chose d'intéressant pour les étudiants, pour monter de nouveaux projets, pour monter de nouveaux masters, pour effectuer des recherches pluridisciplinaires. Bon, les avantages sont très nombreux. Politique d'excellence, puisque, effectivement, ces partenaires que je viens de citer, y compris l'INSEAD, hein, qui a quand même une réputation internationale, l'excellence, et puis un vrai projet de cette commu qui s'appelle l'IDEX, qui est d'ailleurs en cours de renouvellement, et nous travaillons activement, d'ailleurs, actuellement, à ce renouvellement. Rien n'est acquis définitivement. Nous sommes dans la phase d'évaluation. Nous sommes en train de terminer le dossier de renouvellement. D'ailleurs, je travaillais hier, encore pas plus tard qu'hier, sur la contribution de l'UTC. Et l'on souhaite, effectivement, que ce dossier, qui sera examiné en mars par le jury international, continue à être retenu. Sinon, on va avoir, vous voyez, la chute, un arrêt d'une politique quand même très très forte partenariale et puis des subventions correspondantes.
Le réseau UT, du coup, est amené à disparaître, le réseau inter-UT entre Belfort-Montbéliard, Compiègne et Troyes ?
Alors, justement, je dirais non. Je rappelle pour les auditeurs que notre politique partenariale, si je laisse de côté, parce que c'est évident, la dimension internationale, notre politique partenariale, et le conseil d'administration en 2011 avait très clairement pris position, est articulée sur trois dimensions, pas trois niveaux, trois dimensions harmonieuses, intégrées, non exclusives. Sorbonne Université, on vient d'en parler abondamment. Notre ancrage territorial en Picardie est demain, dans un mois et demi, en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, parce que nous sommes implantés sur ce territoire. On a Et un territoire, moi je viens de Lyon, hein, la région Picardie par rapport à la région Rhône-Alpes, bon, un territoire qui a des difficultés, de l'illettrisme, de l'analphabétisme, bon, que vous connaissez bien, des difficultés qui perd de la population, etc. Donc nous avons en tant qu'université une responsabilité forte de jouer un rôle sur ce territoire pour le rendre plus attractif, pour le rendre plus créatif, pour contribuer par notre voie universitaire au développement économique, à l'innovation. Je présentais hier au Conseil économique et social une étude que nous avons menée en tant que rapporteur sur comment développer, mieux développer dans les PME, PMI, Picard, l'innovation. Donc cette responsabilité de notre ancrage territorial, qui s'exprime aussi par la mise en œuvre d'un écosystème local d'innovation et de créativité, elle est forte, nous voulons l'assumer, donc deuxième dimension. Et puis la troisième, c'est celle du groupe UT, qui est une logique de marque, de nom, de modèle identique. Donc vous voyez que ces trois dimensions, elles ne sont pas concurrentes, elles ne sont pas exclusives, elles ont chacune leur propre logique. Ancrage territorial avec l'UPJV, avec les SCOM, l'ESIER, la Salle Beauvais, politique de complémentarité thématique d'excellence pour Sorbonne et politique de marque, de même nom, de même modèle, d'une histoire un peu plus jeune pour les deux autres, par rapport au groupe UT. Et je dirais, donc voilà, c'est déjà, et on a toujours souhaité, malgré les contraintes de la nouvelle loi du 22 juillet qui nous forçait un peu à faire des choix, hein. Choisissez votre territoire, vous ne pourrez pas en même temps être dans Sorbonne et en Picardie, faites ces choix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, on a subi ces contraintes, on a vécu de ce fait des moments difficiles. Aujourd'hui, bon, les choses se sont un peu arrangées parce que, vous le savez, en Picardie, on n'a pas fait finalement une commu, on a utilisé le mode associatif qui n'était pas incompatible avec l'appartenance à une autre commune. Donc on est sorti un peu de ces problèmes juridiques, un petit peu quand même, sur le plan juridique, mais vous voyez bien que cette politique est articulée. Alors, aujourd'hui, on en arrivera progressivement à la question de ce qui se passe entre Paris 4 et Paris 6. Aujourd'hui, effectivement, cette politique du groupe UT, alors je vais dire très clairement, elle est pas du tout remise en cause, et je vais même pousser le bouchon un peu plus loin en disant que actuellement on a un certain nombre de réflexions que je vais citer sur le plan de la formation continue, par exemple. Sur le plan de la réponse à l'appel d'offres Institut Carnot, hein, il y a un troisième appel d'offres Institut Carnot, dont nous avions un Institut Carnot dans le passé, et actuellement, bon, avec des délais de réponse à ces appels d'offres très prochainement, hein, l'appel à formation continue, c'est le 7 décembre, Carnot, c'est en mars, nous, on est en train de réfléchir très activement avec le groupe UT et surtout l'UTT sur des réponses communes à ces appels à projets, parce que nous pensons sur ces deux sujets, la formation continue par rapport à des entreprises, les stages inter-entreprises, intra-entreprises, c'est quand même quelque chose qu'on a de commun avec les autres UT. Et en ce qui concerne l'Institut Carnot, qui est une reconnaissance d'excellence pour développer de la recherche partenariale avec les entreprises de la recherche technologique. Et ben, quand je dis recherche technologique, c'est clair que là, on a bien des partenaires avec qui on doit se retrouver. Donc, je dirais même au contraire, et je vais même, en deuxième élément de réponse, dire que ce rapprochement entre les UT et peut-être UTT, UTC, peut-être plus fortement compte tenu de cette proximité de région aussi. Et cette l'UTBM est très engagée dans sa commu, a délégué presque totalement sa recherche à la commu, ne délivre pas le doctorat. Donc l'UTBL, je mets un peu à part sans porter de jugement de valeur, en disant voilà, leur contexte en Franche-Comté et le suivant, ils sont très engagés dans une dimension commu, notamment sur la recherche, donc ce qui, pour cette raison, nous rapproche un peu plus de l'UTT. Mais par rapport à tous ces mouvements en cours, avoir effectivement une alliance UTT-UTC, non, qui n'exclut pas évidemment l'UTBM, une alliance UTT-UTC forte par rapport à notre positionnement dans Sorbonne, ça peut même être un atout. Donc, vous voyez, au lieu de dire, bon, voilà, il y a des choix d'exclusivité, vous allez renforcer Sorbonne et donc minimiser le groupe UT, ben, je dirais non. Le renforcement du groupe UT, ces rapprochements, ces réponses, je viens d'en citer deux, pour la recherche partenariale et pour la formation continue, va renforcer la logique de groupe et va nous renforcer aussi dans Sorbonne, par rapport à une Sorbonne qui fait 56 000 étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui, sur ces 56 000, va demain, si la fusion Paris 4, Paris 6 va jusqu'au bout, conduire à une université dans Sorbonne qui fera à elle seule 50 000 étudiants, Paris 4 plus Paris 6, qu'on appelle désormais, plaisantant, Paris 10.
Du coup, c'est une marque, du coup, l'UT, ou c'est plutôt un projet? Comment vous le voyez, vous?
Ah ben, c'est une marque, c'est une évidence que c'est une marque. La marque université. Alors, on ne va pas faire de questions sur la marque UTC, la marque UT, la marque. C'est pas ça mon propos, là. C'est une question qui se pose, évidemment. Mais il faut dire, le modèle université de technologie, c'est un modèle auquel. Que nous partageons et auquel nous croyons. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec notre ministre secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mondon. C'est une question que je vais aborder avec lui, vu du ministère, vu de notre ministère de tutelle. Quel est le regard porté dans le paysage universitaire français par notre ministère, qui est notre tutelle, comme on dit. Quel est le regard porté sur une université de technologie? Et là, je ne parle pas de la marque UTC ou de la marque UTT, sur une université de technologie. C'est une question... importante. Nous, on a notre regard. On sait qu'une université de technologie, dans son modèle, et moi, je le disais même hier soir avec des amis de l'INSA de Lyon avec qui je dînais, le modèle UT, université de technologie, est un bon modèle qui a même plus d'atouts sur certains volets que le modèle INSA. Et quel volet? Sur le volet pédagogique, le modèle pédagogique de choix d'unité de valeur, de construction de son propre programme. Ça, c'est une originalité UT, hein, UTC, UTT, UTBM. Ce n'est pas du tout le modèle de l'INSA de Lyon ni des INSA. Et c'est une grande différence, ce choix de parcours. Cet ancrage dans l'innovation, cette troisième mission que nous assumons ici fortement, c'est aussi une grande différence aussi, d'assumer l'innovation. Et je peux, voilà, donc voilà, voilà que deux. Je pourrais continuer sur d'autres, mais il n'est pas question pour moi. L'INSA de Lyon est une très, très belle boutique. Je ne suis pas en train de renier ce que j'ai adoré pendant 10 ans, mais de mieux percevoir aujourd'hui, après 4 ans d'existence ici, les points forts de ce modèle UT. Donc c'est ça dont il est question. Et il est très très clair, et peut-être que même dans ce contexte un petit peu turbulent que nous vivons, de réforme de l'enseignement supérieur, dans ce milieu turbulent, quand il y a des turbulences autour de vous, ça a tendance à resserrer les liens. Hein, ça vous resserre les liens dans les turbulences, comme dans un couple qui a des menaces externes et qui se resserre. Je le dis en ces termes-là.
À l'instant que vous comprenez un peu les étudiants sur leur manifeste We Love UT, ils ont un peu peur de perdre une certaine indépendance. On sait que sur les statuts, notamment de la fusion entre Paris 4 et Paris 6, il y aura une nouvelle proposition, c'est une loi qui permet d'une proportionnelle sur le CA. Alors il y a l'UTC sera par rapport aux actifs et au personnel de l'UTC. Il y aura du coup une différence de taille entre les différents acteurs. Et du coup, aussi, beaucoup d'étudiants se posent la question sur l'esprit UTC1 et surtout d'un point de vue des entreprises.
Alors, il n'y a pas que les étudiants qui se posent des questions. Hein. Le directeur de l'UTC se pose des questions. Le conseil d'administration se pose des questions. Nous sommes face à une situation, alors j'allais dire nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle. On sait très très bien que Paris 4 et Paris 6... ne serait-ce dans le début du projet, sont engagés dans un processus de rapprochement. Ils ne disent pas fusion, d'ailleurs, ils disent de rapprochement qui devrait conduire à la nouvelle université.
Mais c'est une fusion, concrètement.
C'est une construction d'une nouvelle université. Je leur laisse leurs propos, c'est ce qu'ils disent. Donc je m'en tiens strictement aux propos de la lettre de M. Barthélémy Joubert et Jean Chambaz. Donc, construction d'une nouvelle université. On nous dit, puisque nous sommes dans cette commu, on nous dit, ainsi que l'ancien Paris 2, on nous dit, si vous voulez, cette nouvelle université, pardon, vous êtes ouverte. On nous dit cela. moi, quand on me courtise, j'ai tendance à considérer que c'est plutôt positif. Mais enfin, je ne suis pas prêt, dès que je me fais courtiser, à répondre tout de suite, à me jeter dans les bras de la personne ou de l'entité ou de la structure qui me courtise. Donc, on en est là, c'est une attitude... Se faire courtiser, ça veut dire qu'on attache, ça veut dire que nos partenaires attachent de la valeur à ce qu'on représente. Hein, si on ne représentait rien, et c'est quoi la valeur ? C'est certainement pas une valeur quantitative, puisque vous avez bien vu qu'on représente moins de 10%, mais c'est plus une valeur qualitative. Quelle est cette valeur qualitative ? C'est d'être une école d'ingénieurs, une université et une école d'ingénieurs tout à la fois, qui a quand même un positionnement, une réputation assez satisfaisante, qui a des liens très très forts avec les milieux économiques, qui a une troisième mission connectée qu'on appelle l'innovation, qu'elle assume de plus en plus fort, qui fait sa visibilité en France et à l'étranger. Donc cette valeur que nous pesons, certainement pas sur le plan quantitatif du bataillon en nombre d'étudiants ou en nombre d'enseignants, mais sur ce qu'on présente qualitativement, en termes de valeur, en termes de richesse, si nous sommes courtisés, c'est parce qu'on a en face des partenaires qui nous voient dans la valeur. Alors, donc moi, je vois ça très positivement. Et maintenant, par rapport à cette question qui nous est posée, je crois qu'il faut être clair. Nous, ces valeurs, nous souhaitons qu'elles perdurent. Ce sont les valeurs sur lesquelles s'appuie l'UTC. Hein, le modèle UTC s'appuie sur ces valeurs. On a 5 valeurs. Hein, on a l'humanité, les humanités, la coopération, l'audace de penser autrement, la créativité et la coopération. Voilà les 5 valeurs sur lesquelles s'appuie l'UTC, ses étudiants, ses personnels. Il est clair qu'on ne va pas s'engager dans un mouvement, 1, qui bafouerait ses valeurs ou qui ne les porterait pas haut et fort, 2, qui ferait disparaître notre marque et notre modèle très, très, très clairement. Donc il n'est pas question de rentrer dans un dispositif où nous subirions le même sort, je vais dire, que Paris 4 et Paris 6, qui annoncent elles-mêmes que nous, dans ce processus, elles vont se transformer comme la chenille se transforme en autre chose, papillon même, qu'ils appellent, avec un grand pavillon, effectivement, Sorbonne Université. Voilà. D'ailleurs, vous savez bien que j'ai fait organiser, après cette angoisse qui a été exprimée, une assemblée générale avec les étudiants, assemblée générale qui a été, où mon message a bien été entendu. Et je crois que j'ai, par notre position, hein, disant voilà, nous travaillons, on regarde ce qu'on peut, comment on peut à la fois bénéficier de l'intérêt de cette nouvelle université, qui sera pluridisciplinaire, qui sera une université intensive de recherche, bien positionnée dans le classement de Shanghai. Donc de voir comment ce drapeau, cette marque ombrelle, on pourrait dire, hein, sans abandonner la note, elle peut nous valoriser, et tout en conservant effectivement notre autonomie, notre modèle d'ingénieur. C'est ce que j'ai dit aux étudiants, et pas pour les rassurer, parce que c'est la posture qui est la nôtre aujourd'hui. Alors très clairement, vous savez, quand on dit qu'est-ce que vous allez faire, ceci ou cela, souvent on pose le problème de manière binaire, et souvent c'est une troisième solution qui voit le jour. Alors la manière binaire, ça consiste à dire aujourd'hui, est-ce que vous allez rentrer dans cette université et disparaître, ou est-ce que vous allez rester à l'extérieur ? Ça, c'est le problème binaire. Si on me posait la question tout de suite et que je devais répondre tout de suite et que j'avais le pouvoir de répondre seul, je dirais non, on ne va pas rentrer dans une université dans laquelle on va disparaître. Et il faut également, et ça c'est le processus de construction qu'ils sont en train de faire, de savoir, on a la balle dans notre camp, mais la leur, ils ont une autre balle dans l'autre camp, cette nouvelle université qu'ils sont en train de construire avec des groupes de travail, quel est son regard par rapport à ce que nous représentons? Ingénierie, technologie, innovation, responsabilité sociale. Et ça, ce n'est pas une faculté. Cette nouvelle université sera organisée en termes de faculté, une faculté des sciences et ingénierie, d'ailleurs, disent-ils, une faculté de médecine et une faculté des sciences humaines et sociales. Il est clair que nous, ce que nous représentons, ce n'est pas une quatrième faculté. On pourrait dire que Paris 2, le droit, ça peut être une organisation facultaire qui représente le droit. Mais nous, ce n'est pas une discipline Auguste Comtienne qu'on court. C'est une démarche d'innovation, une démarche de formation d'ingénieurs, de technologie, une responsabilité sociétale très, 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 très forte. Donc la question est également dans leur camp, ils sont en train de construire. Quelle place Voyez-vous, et là je ne parle pas d'une place au conseil d'administration, combien de postes, ça c'est pas la première question, ça. C'est évidemment...
Ça oriente un peu le choix, l'orientation des travaux
absolument.
Qui vont être mis en place.
Et je pense, je disais, une troisième voie, nous sommes en train de travailler. Je crois que dans ce contexte un peu turbulent, je crois qu'il faut aussi être innovant sur le plan juridique. Donc c'est d'ailleurs une question que je vais aborder avec Thierry Mandon la semaine prochaine, mais de voir la troisième voie, ça peut être une expérimentation qui positionnerait l'UTC non pas... Comme un partenaire à l'intérieur, une School of Engineering, of Technology, qui serait portée par l'UTC, mais qui aurait disparu sur son identité juridique. Et la voie que nous essayons de travailler, et ça, c'est une voie d'expérimentation qui pourrait nous offrir une autre position juridique, dans laquelle on va activement participer à cette dynamique qui est bonne, dans laquelle... on aurait effectivement un positionnement et une reconnaissance forte de, pas sous la forme d'une faculté, de ce que nous représentons, et sous un statut juridique à inventer, mais en phase d'expérimentation, il faut être innovant aussi sur le plan juridique, qui nous permettrait de maintenir et de faire en sorte que, et les étudiants, mais pas que les étudiants, et les enseignants, et le directeur de l'UTC et son conseil d'administration sont contents de ce positionnement. Voilà.
Vous pouvez nous certifier aujourd'hui que du coup, il n'y aura jamais de changement de nom de l'UTC en Sorbonne UTC ou ce genre de choses.
Alors attendez, Sorbonne UTC, si vous regardez l'IDEX, hein, quand il a été déposé il y a quelques années pour le jury du DEX, il y avait un organigramme, enfin il était très clair que chacun gardait son autonomie, son statut, et nous apparaîtions, on l'a encore regardé il y a quelques jours, nous apparaîtions comme l'INSEAD, la School of Business and Management, etc. Et nous apparaîtions dans une case qui était Sorbonne UTC, University of Technology. Ça avait déjà résulté d'une petite discussion, parce que dans la première version, ce n'était pas la formulation. Voilà. Donc, oui, cette marque UTC, oui.
Aujourd'hui, les étudiants, quand ils vont sortir de leur cursus universitaire, ils vont se rendre compte que l'UTC est vraiment très connu aussi bien dans les petites entreprises, dans les moyennes entreprises, dans les très grandes. Vous n'avez pas peur, justement, que ça disparaisse un petit peu, qu'on soit noyé sous dire, en fait, c'est la Sorbonne, quoi.
Alors...
Parce que même dans les classements, aujourd'hui, l'UTC est très bien classé,
oui,
à l'international sur... dans l'étudiant, dans la nouvelle usine, toutes ces choses, les classements sont plutôt bons en plus.
Absolument, absolument. Et ça traduit à la fois une réalité du produit, enfin entre guillemets, hein, du produit d'ingénieur, de notre produit, sa réalité. Il est apprécié pour sa réactivité, il est apprécié pour son lien avec les sciences humaines et sociales, être en capacité de penser la technologie, il est apprécié pour son ouverture internationale. Vous parliez des PME, PMI, effectivement, on a une grande spécificité, c'est que, et c'est pas un décret qui permet de le faire, c'est que 40%, 35 à 40% de nos ingénieurs se placent dans les PME, PMI, alors que la moyenne des écoles d'ingénieurs nationales, c'est plutôt une dizaine de pourcents. Ça, c'est une spécificité, c'est pas un décret, j'ai pas dit nous allons placer, vous le savez bien, 40% dans les PME-PMI. C'est simplement que le modèle UTC, la manière, ce modèle pédagogique, cette ingénierie pédagogique fait que au bout du chemin, on a des gens qui ont envie d'aller dans des PME-PMI par rapport à des grands groupes. Bon, tout ça, ça a de la valeur. Mais pourquoi voulez-vous que cette valeur, cette richesse, cette réputation, cette reconnaissance, ce positionnement dans les classements, on les perde sous prétexte que nous allons travailler plus activement avec Sorbonne Université, qui, dans le modèle qu'on souhaite, conserverait et le positionnement et la responsabilité de l'UTC en ingénierie, technologie et innovation. C'est au contraire une valeur ajoutée et pas une valeur retranchée.
Donc la création de UTEC, Humanité et Technologie, qui est un peu l'alternance au tronc commun, ça a été fait dans cette optique de ce rapprochement avec Sorbonne Université ?
Non, à l'origine, non. Parce qu'il faut savoir qu'UTEC, le projet UTEC qui avait le jour en 2012...
C'était un peu décrié au départ.
En 2012, non, mais bien sûr, je peux vous en parler très savamment là-dessus. UTEC, l'idée même d'UTEC, elle a pris naissance avant 2000. Hein. Moi, quand je suis arrivé en 2011, le 1er septembre, UTEC était déjà dans des tuyaux, mais faisait l'objet d'un grand consensus dans la maison, hein, etc.
C'était donc, quoi c'était pour le consensus? C'était le fait d'accueillir des gens qui n'avaient pas un bac S?
Non, si je me réfère au débat qu'on a eu au conseil d'administration quand j'étais là, c'était plus de dire... de la part de certains, et pas tout le monde, la preuve c'est passé, de dire bon écoutez, on fait déjà plus, vous savez, les professeurs qui voient, enfin je suis professeur, hein, donc je suis pas en train de critiquer ma profession, mais de dire on fait déjà moins de mécanique, on fait déjà moins d'informatique, ils sont moins bons qu'avant ces étudiants, etc. Et en plus, on va en plus en faire moins, et puis rajouter en plus plus d'humanité, plus de philosophie, plus d'épistémologie, etc. C'était ça un peu le discours ambiant. Plus des idées, plus des choses... légitime de dire, bon, ça va encore coûter de l'argent alors que le contexte budgétaire est difficile. Bon, voilà un peu les détracteurs, les deux messages qu'ils tenaient.
C'est qu'on n'a pas assez de retour sur investissement ?
Non, mais alors attendez, je termine l'argumentaire. Pourquoi on a réussi à faire passer le projet ? Il n'y a pas... Un, parce qu'il y avait une formidable demande en amont, je vais prendre déjà l'amont et ensuite l'aval, il y avait une formidable demande d'étudiants. Moi, quand j'étais directeur de l'INSA de Lyon, dans les salons, combien de fois je voyais des jeunes hommes ou des jeunes filles qui disaient « Moi, j'ai un bac philo et j'aimerais bien faire des études scientifiques. Je ne suis pas en train de renier. J'aime toujours la philo, j'aime toujours les lettres, les humanités, mais j'ai envie de faire de la science. » Et la réponse était « Ce n'est pas possible. » Ou alors, vous allez faire des études d'abord de philo, après, bon, ce n'est pas possible. Donc, il y avait une demande forte d'étudiants venant avec un bac L ou ES de faire des études scientifiques. UTEC répond à cela. Si je vais maintenant en aval, de l'autre bout de la chaîne, du côté des DRH, du côté des entreprises, on avait des entreprises, et on a toujours des entreprises, qui revendiquaient des profils d'ingénieurs, bon, donc aptes à produire des technologies nouvelles, à produire des innovations, à produire des objets techniques, hein, qui s'appellent un service, un procédé, un matériau, etc., des choses nouvelles, mais également à penser ce développement. Parce que ces objets... Ils sont pas que techniques, ils sont socio-techniques, parce qu'ils diffusent dans la société. Ils imprègnent la société. Et donc, on avait en bout de chaîne des DRH et des entreprises qui disaient, nous, les profils d'ingénieurs, dont le centre de gravité, c'est effectivement de la science, de l'ingénierie, de la technologie, mais qui, en plus, sont capables, et de manière intégrée, pas sous forme de rustine, ou d'intégrer, effectivement, dans leur réflexion... une dimension humaniste, c'est-à-dire faire des gens capables aussi de penser la technologie dans ses conséquences éventuellement négatives, qui s'appellent l'environnement, qui s'appellent le social, qui s'appellent l'économique, de penser des gens. Bon, voilà. Donc, il y avait cette demande-là. Donc, vous voyez, des deux bouts de la chaîne, à la fois du côté des étudiants potentiels et du côté des employeurs, il y avait cette volonté. Et nous, ben nous, UTC, on a été le troisième, le lien entre l'amont et l'aval, avec notre propre réflexion interne, qui s'appuie quand même sur le fait qu'à l'UTC, les sciences humaines et sociales sont fortement intégrées. Donc on a joué notre rôle avec ce département qui existait déjà, technologie et sciences de l'homme. Donc, et voilà pourquoi finalement on a réussi, la pression forte de l'amont, la demande des employeurs et notre positionnement en termes d'université de technologie, mais capable de penser la technologie, capable de bien intégrer les sciences humaines et sociales, avec le symbole, le département technologie et sciences du homme, c'est ça qui a conduit au succès. Alors, le succès, si on parle de succès, oui, si je reviens à l'amont, le succès, en termes d'amont, il est quand même important. Bon, pour 25 places ou 24, je ne sais plus exactement, d'avoir aujourd'hui 1200 candidats, c'est quand même quelque chose. Alors, on me dit, oui, mais dans les 1200, ce n'est pas que des L et des ES. Ben, c'est bien, il ne s'agit pas de faire non plus un ghetto où on n'aurait que des L et des ES et que les S seraient à côté. Bon, donc le mélange L, ES et S est tout à fait intéressant. Qu'on n'en ait pas tout de suite 50%, ce qui est le cas aujourd'hui, on a un peu moins de 50%, c'est pas étonnant non plus, on démarre, mais enfin, il y a quand même une forte demande. Je répondrai au succès total de l'opération quand les premiers ingénieurs diplômés seront dans l'industrie, ce qui n'est pas encore le cas.
Les minutes filent, je sais que votre temps est précieux, on va parler un petit peu des étudiants notamment dans la ville. À la rentrée de A15, il y a eu de nombreux étudiants qui ont eu des problèmes avec la police en centre-ville notamment, avec des problèmes liés au bruit. En P15, des étudiants ont été convoqués par l'administration pour des problèmes de nuisance dans des colocations. Quelles actions mettez-vous en place avec la ville sans franchir la ligne de la vie privée? Puisque c'est vrai qu'on s'était posé un peu la question sur ces convocations par l'administration.
Alors, moi, par la direction. J'aime pas le mot administration, vous savez. Non, c'est vrai, j'essaie de combattre l'administration. Alors, je suis entouré d'administratifs, j'essaie de combattre l'administration. On a besoin d'une administration au service de nos missions fondamentales. Et le mot administration, il n'est pas beau en tant que tel, parce qu'il laisse entendre contraintes, règlements, etc., etc. On a besoin de libérer les énergies. Le parrain de la promotion de la remise des diplômes de samedi dernier a fait un, si vous l'avez écouté, a fait un très très beau discours. On a besoin de gens, alors qu'ils ne sont pas des révolutionnaires qui cassent pas tout, mais des gens, et c'est la cinquième valeur, l'audace, qui sont des gens capables de penser différemment. Parce que les problèmes de notre société, qui sont lourds hein, quand même, les problèmes de notre société, morale, écologique, etc., ces problèmes nécessitent des solutions et des gens qui pensent différemment et qui sont innovants dans leur pensée également. C'est le propos qu'a tenu Christophe Lecandre, donc le parrain de la promotion. Soyez capables de penser différemment, soyez impertinent.
On dirait une pub pour Macintosh.
Alors, moi, maintenant, je vais vous dire, hein, quand je suis arrivé avec Frédéric Huglot en 2011, on avait une situation ici assez catastrophique par rapport au regard des citoyens sur les étudiants. Et moi, je me souviens avoir été mon premier entretien avec M. Marini en septembre 2011, qui me demandait d'interdire l'alcool, de tout arrêter. J'ai toujours, et c'est vrai que les articles de presse de l'époque hein, n'étaient vraiment pas très élogieux envers l'UTC, ce milieu d'étudiants qui font du bruit, qui empêchent les citoyens de dormir, etc. On n'avait rien de très positif à l'époque. Je crois que les choses ont quand même aujourd'hui beaucoup changé. On va dire pourquoi. Les choses ont beaucoup changé. Les étudiants et l'Université de technologie de Compiègne sont beaucoup plus et mieux intégrés dans la ville. Et moi, c'est le propos, si j'ai résisté pour ne pas fermer le bar, et au contraire, avec une contribution financière de la mairie, hein, de l'ARC, pour ne pas interdire l'alcool, parce que c'était déplacer le problème qui allait passer d'un endroit ici ouais. et qui allait se déplacer à un autre endroit de la ville. Donc, ce n'était pas la solution. C'est parce que je pensais qu'on doit mener en parallèle des actions qui valorisent les étudiants, qui mobilisent les étudiants par rapport à la ville. Et cet aspect-là, alors le symbole aujourd'hui, c'est TUC, hein, c'est Tous Unis pour la Cité, mais enfin TUC, c'est une opération d'un jour qui est le résultat de toute une démarche, c'est pas en un jour, mais c'est une opération symboliquement forte qui fait que les étudiants, ils continuent toujours à faire la fête, on essaie de mieux contrôler, on a déménagé le bar pour qu'il soit moins proche de la maison de retraite, donc c'est tout ça qui a été fait pour mettre dans la balance du regard du citoyen un meilleur contrôle de débordement. Mais inversement, dans l'autre côté du fléau, le fléau, oui, je l'utilise dans un double sens, hein, le fléau de la balance, de l'autre côté, d'avoir des actions très positives qui valorisent les étudiants. Des actions qui sont menées dans le cadre de TUC. Donc c'est tout ça qu'on a fait. Et reconnaissez qu'aujourd'hui, le regard des citoyens sur les étudiants a quand même beaucoup, beaucoup évolué, notamment grâce à l'action, puisque c'était lui qui en charge tout ça dans la direction, de Frédéric Huglot. Alors, que subsistent des problèmes que vous soulignez, ça me paraît normal. Et en plus, dans un contexte actuellement très tendu de vigipirate renforcée.
C'était à la rentrée, c'était.
Oui.
C'était pas encore.
oui, non, mais c'est vrai, c'était pas hier matin ni la semaine dernière. Mais il y a eu beaucoup de progrès. Maintenant, reconnaissez aussi qu'il y a des débordements étudiants qui méritent quand même de temps en temps qu'on s'y en occupe et qu'on mette un holà et qu'on contrôle.
Il y a après, pas. La foire au vin et au fromage à Compiègne, en centre-ville, c'est des habitants lambda qui y vont, il y a autant de bruit, hein. Par exemple, la foire au fromage et au vin proposée par la mairie.
Oui, la grande différence, c'est que la foire au vin, elle dure deux jours, elle dure un week-end, elle est portée par un adjoint qui s'appelle Nicolas Ledet, etc. L'action étudiante et les bruits étudiants, ils sont répartis sur toute l'année.
Du coup, on estime environ.
Non, mais objectivement, je suis sérieux, je pense que les choses évoluent et reconnaissez que les méthodes que nous, direction, on va utiliser pour un peu mieux contrôler, c'est pas de faire passer les étudiantes vers les conseils des disciplines, mais des trucs plus intelligents, de leur leur faire travailler. Le TUC, ça veut dire aussi travaux d'utilité collective, hein, au-delà de Toussigny pour la cité, et de demander à des étudiants d'aller travailler à 5h du matin ou à 4h30 avec des femmes de ménage qui, elles, nettoient les résultats de ces débordements. C'est intelligent comme méthode.
On a l'impression d'avoir un peu une forme de punition un petit peu en amont pour leur montrer les problèmes qu'ils peuvent causer. En plus, on estime à Compiègne environ 10% de la population UTCN qui est compiénoise, mais la présence de UTC est souvent mise en avant par la ville, notamment auprès des partenaires. Mais estimez-vous pas qu'il devrait y avoir un meilleur soutien de la ville sur son université, ses étudiants, ses assos? Est-ce qu'il pourrait y avoir des améliorations qui seront faites? On a l'impression qu'il y a un petit peu deux sortes de Compiégnois. Il y a les Compiégnois qui vivent toute l'année, et les UTCiens, alors que les UTCiens participent très activement à l'économie locale, notamment en faisant leurs courses, en payant leur loyer. On a l'impression qu'il y a un petit peu deux sortes de Compiégnois. Vous ne trouvez pas ça?
Alors, quand vous parlez un meilleur soutien de la ville, ça dépend de quoi vous parlez.
Hein. Nous, on a eu concrètement...
Un soutien financier
Pas forcément financier, mais on a eu concrètement une réponse de l'administration en nous disant, de la ville, en nous disant, c'est une asso étudiante, on fait déjà beaucoup pour l'UTC, alors qu'une asso étudiante, c'est une association qui est déclarée en loi 1901, en préfecture, donc c'est une association compiénoise.
Oui. Donc, qui sollicitait des subventions?
Non, qui sollicitait, le Zicodrome, par exemple, gratuitement.
Oui. Ah oui, donc ça revient, c'est indirectement une subvention. Non, mais qu'on puisse améliorer les choses, et là, la direction, elle est à vos côtés, hein, qu'on puisse améliorer les choses pour être un acteur, votre interlocuteur, votre porte-parole auprès de Philippe Marigny et de ses adjoints, de Michel Foubert, qui est quand même au conseil d'administration. Oui, mais n'hésitez pas à nous faire part des problèmes que vous rencontrez. Mais sachez quand même que la ville, parce que là, c'est quand même indirectement du financement, la ville a quand même des contraintes budgétaires.
Les retombées économiques sont réelles quand même.
Absolument, absolument. Et Philippe Marigny ne manque pas à tout bout de champ quand même de valoriser, de souligner chaque fois qu'il le peut le rôle stratégique de l'UTC dans sa ville. Il a bien compris d'ailleurs que si demain l'UTC, pour une raison ou pour une autre, se régionalisait, se marginalisait, que les étudiants n'avaient plus envie d'être candidats en disant cette ville, etc., elle est difficile, il a bien compris qu'après avoir perdu les garnisons, perdre l'UTC, ça serait effectivement une grosse catastrophe pour la ville. Quoi.
Vous incitez les étudiants à s'inscrire sur les listes électorales sur la ville où ils étudient? L'inscription pour aller voter au municipal, au régional? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils restent dans leur ville de naissance?
Moi, je pense que c'est une question que chacun doit à laquelle chacun doit apporter sa propre réponse. Chaque étudiant, j'ai pas envie de donner des conseils, j'ai envie de donner des conseils. Non, mais le vote est un moyen d'expression, hein, effectivement, mais je crois que c'est à chacun de dire où est-ce qu'il veut exprimer sa voix dans une élection nationale ou régionale. Ça, c'est à chacun, et j'ai pas envie de donner des conseils. Simplement, je dirais, il y a d'autres moyens d'exprimer sa voix dans son engagement
citoyen.
Dans son engagement citoyen, sur place, dans sa ville. Voilà, non, c'est...
Du coup, est-ce que pour vous, ça serait plutôt une aide d'avoir plus d'étudiants inscrits sur les listes compiénoises, par exemple, pour avoir un poids un peu plus fort auprès de la ville? Que vous estimez ça?
Sur les listes municipales, vous voulez dire? Oui, moi j'engagerai effectivement les... Ça c'est un engagement par contre que je pourrais conseiller, de dire effectivement, si vous voulez jouer un rôle plus important dans votre ville, faire entendre votre voix, soyez candidat effectivement sur les listes pour faire valoir votre droit, hein, vos droits, votre voix, pardon. Votre voix. Oui, ça par contre, ça me paraît... un conseil à donner, plus que de dire allez voter là ou chez papa et maman.
Trois dernières questions. Juste, comment voyez-vous l'UTC dans 10 ans?
Alors, moi, je vois l'UTC... moi, vous savez, je suis optimiste de nature. L'UTC est confronté aujourd'hui à des choix. On en a parlé abondamment. Je crois que si l'UTC arrive à trouver son bon positionnement dans ce système complexe dans lequel on est aujourd'hui, on parlait de positionnement par rapport aux UT, positionnement par Sorbonne, j'ai donné quelques éléments là, si on arrive véritablement à trouver notre positionnement intelligent, Alors, le positionnement le plus simple qui nous créerait le moins de problèmes, c'est de dire on reste UTC comme on est, UTC, bon, voilà. Je pense que l'environnement doit nous conduire à réfléchir un peu plus fortement sur le positionnement. Rester tout seul tel que nous sommes actuellement, en disant bon, on n'est pas concerné par Sorbonne, avec UT, bon, on continuera à faire des petites choses ensemble, notamment le recrutement, ce qui n'est pas négligeable, et l'université de Shanghai, ce qui n'est pas négligeable non plus, je crois que ça serait une mauvaise carte. Il faut qu'on voit quand même que les choses évoluent. Donc si on arrive à trouver ce vrai positionnement qui ne bafoue pas les valeurs de l'UTC, qui maintient le cadre juridique d'autonomie. Le cadre juridique d'autonomie, peut-être pas le même qu'aujourd'hui, mais un cadre juridique d'autonomie qui nous permet d'exprimer ce que nous sommes, c'est-à-dire une école d'ingénieurs. On me dit souvent, vous oubliez qu'on est une école d'ingénieurs. Non, c'est pas que j'oublie, mais ça me paraît tellement évident que je le dis pas. Mais effectivement, non, mais dans l'assemblée générale que j'ai eue avec les étudiants, c'était un peu une question que certains posaient, mais dans une école... oui, c'est tellement, ça me paraît tellement évident que j'en parle pas. Donc, effectivement, de bien revendiquer ce que nous sommes, je suis très optimiste pour l'avenir. De l'UTC dans 10 ans. Actuellement, il y a des tas de questions. Alors, il y a cette question du positionnement. Il y a aussi des questions financières. Grosse question financière, parce qu'on peut avoir des grands plans, des rêves, si on n'est pas en capacité de les exprimer sur le plan financier. Vous savez que nous réfléchissons beaucoup hein, sur le modèle économique de l'UTC, sur les leviers permettant d'augmenter les recettes. Hein, et si on y réfléchit, je suis capable même de vous donner des chiffres. Combien j'estime qu'il faudrait de recettes non fléchées, évidemment, parce que si on est toujours à la course, on se donne de nouvelles activités, on a de nouvel argent, mais ça ne résout pas le problème. Je suis en capacité de vous dire ça. Et si on arrive, donc cette réflexion est en cours, si on arrive effectivement sur ce plan-là à avoir des propositions originales, je suis très... très, très, très optimiste sur le positionnement de l'UTC, dont le modèle est un bon modèle à l'international, dont le positionnement dans l'innovation, très, très... l'ancrage dans l'innovation et l'ancrage dans ses gènes, avec le centre d'innovation, avec l'écosystème, je suis très, très optimiste. Et si l'université de Paris 6, la grande université de Paris 6... nous regarde et nous dit venez, faites plus de choses avec nous, c'est quand même, je le disais tout à l'heure, que nous représentons une valeur, une richesse, une originalité qui n'est pas aujourd'hui dans la nouvelle université en cours de construction.
Et vous, Alain Storck, en 2018, c'est normalement la fin de votre mandat, la fin de 2017 ?
Alors, la fin de mon mandat, c'est le 31 janvier 2017. Et je suis en capacité légalement d'aller jusqu'au 31 août 2018.
Du coup, vous voyez comment, où, après ?
Alors, je vous dirais franchement, je suis en train de réfléchir. Bon, si Dieu me donne encore la santé pendant quelques années, parce que vous savez, tout peut basculer du jour au lendemain, surtout à nos âges, j'ai pas envie de m'arrêter professionnellement le 31 août 2018. J'ai envie de continuer à faire des choses intéressantes. Moi, il y a... Alors, je peux pas vous répondre très précisément. Si je savais, je vous le dirais. Moi, il est clair que le champ de l'innovation, c'est quelque chose qui me passionne. Ce champ de l'innovation. Donc, trouver une activité... Alors, peut-être moins lourde. Hein, vous savez, je suis rentré à 1h du matin. Hier matin, je m'étais levé à 4h30. J'étais à Amiens le matin, à Paris le soir. Ce soir, je retourne à Amiens. Si vous voulez, cette vie, 4h30, 10, 11h, 1h du matin à cause des contraintes de transport. J'aspire quand même... Et surtout dans 3 ans, à quelque chose d'un peu plus, calme quantitativement. Mais qualitativement, j'ai envie de continuer à faire quelque chose. Donc je suis en train de réfléchir. Le champ de l'innovation, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, créer une société de conseil dans l'innovation ou rejoindre une société de conseil dans l'innovation... J'ai des gens avec qui on travaille qui me disent « Tiens, tu connais, t'as un carnet d'adresse, on pourrait peut-être faire des choses ensemble. » Je suis pas inquiet. Je pense que je trouverai quelque chose qui m'intéresse, qui me permette encore de m'exprimer. et qui me fait me lever le matin, parce que les ruptures professionnelles où il ne se passe plus rien du jour au lendemain, je pense que ce n'est pas très très bon, et c'est là que vous pouvez avoir un cancer très, très rapidement.
Merci beaucoup Alain Storck, président de l'Université technologique de Compiègne, d'être venu dans nos studios.
De technologie. Et pas technologique.
Oui, de technologie de Compiègne. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On avait plein d'autres questions à vous poser. On a reçu des questions des auditeurs. Alors, il y a une grande question qui est revenue. Quand allez-vous sortir un album? Puisqu'on sait que vous chantez, vous poussez la chansonnette. Quand allez-vous enregistrer un album du coup chez Décibel? Parce que vous savez qu'il y a un studio d'enregistrement dans l'UTC, justement financé par Sorbonne Université.
Je pense que j'ai un spectacle, enfin l'intervention dans un spectacle qui est prévu, je ne vous dirai pas spectacle de qui, en 2016 à Compiègne.
Avec Nicolas Ledé alors?
Peut-être.
Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Vous pourrez écouter cette émission sur internet, hein, www.graphite.net. On vous remettra des petites pauses musicales pour pouvoir que ça soit un peu plus digeste. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios.
C'est
bon
moi.
Après-midi. Et bien sûr, restez branchés sur le 94.9. N'oubliez pas, demain, vendredi, l'émission du BDE. Bon après-midi. Ciao.